Fidèles auditeurs, bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Okapi Service. Nous allons parler aujourd'hui de l'élevage des charançons des palmiers appelés mpossé. Communément, vous savez, on les appelle mpossé et bien des Congolais aiment bien manger les mpossé. Alors, est-ce qu'on peut les cultiver? Pardon? On peut cultiver les mpossé et on peut aussi faire de bonnes affaires avec les mpossé. On en parle aujourd'hui avec Madame Françoise Lukadi Matala. Elle est présidente de la ferme pour les orphelins. Madame Françoise, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission. Elle n'est pas seule. Nous avons également Monsieur Jonathan Tibangu Mutombo, manager de la ferme. Monsieur Jonathan, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Bienvenue dans ce magazine de la vie au quotidien. Des questions et préoccupations, appelez au 099-706-9941. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Tati Mapuku assure la coordination. Feza Bongonda réalise cette émission. Jean-Noël Mokondo à la mise en onde au micro. Jody Daniel Kachama, bienvenue à tous. Et excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Montons son. Notre, votre, l'heure.
Le français parlons-en, c'est tous les lundis à 11h05. En rediffusion, lundi à 16h05 et samedi à 13h05 sur Radio Okapi.
Parlons français. Le français parlons-en.
Le français parlons-en, un programme de Radio Okapi coproduit avec l'ambassade de France en RDC et le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Le français parlons-en, une autre façon d'apprendre et de parler correctement le français.
Parlons français. Le français parlons-en.
Bien, les charançons des palmiers appelés communément mpossé sont des insectes comestibles appréciés notamment à la suite de leurs protéines alternatives à la viande. On peut les rôtir au feu avec des tomates, on peut aussi en faire des brochettes grillées ou les manger tout simplement. Telles quelles, malgré leur apparence d'asticots, ces larves sont extrêmement riches en nutriments essentiels, selon les experts. Même s'ils proviennent des palmiers, on peut les élever dans des boîtes en plastique contenant des fibres, etc. Et on peut en produire autant pour la consommation personnelle et même pour la commercialisation. Alors, quelles sont les techniques d'élevage des charançons? Et est-ce que c'est un business intéressant ou pas? On en parle avec nos invités, Madame Françoise Lukadi Matala, et présidente de la ferme pour les orphelins, Farm for Orphans, FFO, voilà, je pense. Madame Françoise, bonjour.
Bonjour, monsieur Judy.
Bien, votre ferme se trouve à l'université de Kinshasa. Alors, parlez-nous de l'historique. Comment est-ce que vous êtes arrivé à mettre en place cette ferme où vous élevez les charançons appelés mpossé?
Alors, nous sommes non seulement à l'université de Kinshasa, mais nous avons aussi une autre ferme au niveau de Willery, à l'Inerbe, où nous sommes logés. Comment c'est parti? Alors, c'est en 2015, où Farms for Orphans, comme le nom l'a dit, Farms pour les orphelins, commence. Alors, au début, l'idée était d'apporter un soutien aux enfants vivant dans les orphelinats et aux personnes vulnérables. Mais au-delà de ces soutiens matériels, de ces visites séquencées, il s'est manifesté un réel besoin. On a constaté que les enfants, surtout ceux de moins de 5 ans, avaient de plus en plus besoin d'une alimentation saine et équilibrée. Alors, il fallait trouver une alternative pour pallier à ce problème de malnutrition chez les enfants. Nous nous sommes tournés vers l'élevage des insectes comestibles. On a commencé nos essais en 2019 avec l'imposé et en 2023, on avait un protocole calé qu'on peut maintenant reproduire et donner aux personnes vulnérables et aux enfants vivant dans les orphelinats gratuitement l'imposé, leur offrir un accès non limité aux protéines de bonne qualité vu qu'ils n'ont pas le moyen de s'en procurer par eux-mêmes.
D'accord. Donc, c'est depuis quelle année que vous avez lancé votre ferme?
La ferme en elle-même, c'est depuis 2019 qu'elle fonctionne, mais l'ONG, c'est depuis 2015 qu'elle fonctionne à Kinshasa.
Vous êtes seulement à Kinshasa pour l'instant?
Pour l'instant, seulement à Kinshasa, mais les premiers essais avaient commencé en Mbujimayi, là où il y a une situation déplorable
de malnutrition.
Mais les essais d'élevage n'avaient pas vraiment réussi. Et on a migré vers Kinshasa. Comme Kinshasa répond le mieux, on a réussi à maîtriser les paramètres d'élevage. On peut penser à dupliquer dans d'autres provinces maintenant.
Mmh. Monsieur Jonathan Chibang, vous êtes biologiste et manager de la ferme. Est-ce qu'on peut dire que les charançons des palmiers, c'est un peu comme les chenilles, les mbinzos, ou c'est différent?
Bon, globalement, les insectes sont presque similaires en termes d'apport en protéines. Mais c'est différent quand même. Les chenilles sont, on va dire, les enfants des papillons. Mais les charançons, les larves des charançons de palmiers sont différents. Et quand ils deviennent adultes, c'est des charançons qu'on appelle communément kikakala, si je me trompe pas, en lingala. Voilà, c'est ça.
Et comment on arrive à attraper ces larves des charançons?
Ah oui, ça, il faut bien des techniques de capture. Ce qu'il faut, c'est avoir des phéromones, aller dans un lieu où vous pouvez les attirer. Ensuite, quand vous avez capturé, et ensuite vous pouvez lancer votre production. Madame Françoise en a fait vraiment de l'expérience approfondie sur comment on les capture. Personnellement, j'ai pas encore participé à une capture proprement dite, mais c'est comme ça généralement.
Alors madame, dites-nous, vous étiez au village quelque part et puis vous avez capturé les charançons, les larves des charançons.
Exactement. Avant de penser même à faire l'élevage en milieu contrôlé, il était question d'étudier ces insectes dans leur milieu naturel, voir leur comportement sur toutes les phases possibles et amener cela dans les conditions d'élevage. Alors les captures, elles sont plutôt simples. C'est d'ailleurs pour ces raisons-là, les techniques de capture que j'ai vues auprès des paysans, que je me suis dit, mais non, il faut que ça s'arrête, il faut qu'on fasse ça en milieu contrôlé. Nous sommes dans un monde où on met l'accent sur les pratiques d'agriculture durable et de bonne conduite pour lutter contre la déforestation et en même temps protéger notre monde contre le réchauffement climatique. Alors, en milieu naturel, et ils font des incisions.
Il semble que pour les attraper, oui, il faut détruire les arbres.
Exactement. Il faut détruire un arbre. Il faut couper un palmier. Il faut faire des incisions. Et une fois qu'ils envahissent le palmier, c'est fini. Ce palmier s'arrête là. Il n'a plus de vie. Alors, il fallait lui montrer des techniques de capture. On ne va pas dire moderne, parce qu'on peut les faire même avec les moyens de bord. Essayer de mettre en place des phéromones, que ça soit avec le minimum moyen qu'on trouve sur place ou mettre à leur disposition cela. C'est ce que nous avons fait avec des petits pièges comme des pots et essayer de couvrir tant soit peu, trouver des aliments fermentés, mettre dans ces pots-là et ces odeurs-là attirer les géniteurs à défaut de phéromones proprement dit. Mais avec le temps, nous avons réussi à nous procurer des phéromones parce que c'était pas disponible sur place. Fallait les faire venir d'ailleurs. Et c'était parti. Ils venaient en cascade. On pouvait les capturer sans toucher à un seul palmier et du coup protéger l'environnement et leur écosystème naturel.
Mais c'est intéressant. Monsieur Jonathan, dites-nous comment vous faites pour les élever voilà, au sein de la ferme. Quelles sont les conditions, les préalables pour faire un élevage des larves des charançons?
Voilà, comme Madame Françoise l'a dit, il faut créer des conditions, les prendre dans leur milieu naturel et les emmener où on se trouve. Où on se trouve, ça peut être un bâtiment et ça n'a sûrement pas toutes les conditions climatiques pour ces insectes-là. Alors, on crée un microclimat, on prend les géniteurs mâles et femelles, on les met ensemble, ensuite, ils vont s'accoupler pour nous donner des petites larves qui, après un certain temps... Voilà, c'est pour une personne de domaine, il connaîtra facilement. Mais pour, c'est simple, au niveau de leur rostre, ils ont une sorte, si on va dire, une tête. De là, vous allez distinguer par rapport à cette tête-là si c'est un mâle ou une femelle. Pour le mâle, c'est un peu plus robuste et court. Et pour la femelle, c'est un peu plus long et courbé. Voilà, c'est là que vous allez distinguer si c'est un mâle et une femelle. Vous les mettez ensemble. Ensemble, ils vont dans un substrat de ponte où, après accouplement, la femelle va commencer à pondre ces œufs là-bas qui vont éclore, devenir des petites larves et évoluer ainsi de suite, devenir le charançon, la larve comestible qu'on peut consommer.
Voilà. Et la reproduction là, ça prend combien de temps pour pondre les œufs et puis jusqu'à avoir des larves?
Alors, le cycle en soi, le cycle complet, il est de 3 mois si vous réussissez à maîtriser toutes les conditions climatiques et par phase. Il y a des périodes bien définies. Pour la ponte, par exemple, chaque 3 jours, la femelle de Rhynchophorus ou d'Impossé vous pond les œufs. Et ces œufs vont éclore après une semaine et vous venez faire le contrôle. Pour ne pas perturber leur quiétude, leur milieu de reproduction et de développement, on se fixe des timings qu'on vient faire de contrôle. On a des larves de premier stade, on aura après des larves prêtes à être consommées ou transformées encore en géniteurs. Mais le cycle en soi, il est de 3 mois. Mais déjà, au bout de 5-6 semaines, vous avez vos larves prêtes à être consommées. Et après, vous devez décider si telle partie doit être consommée, une autre doit être encore transformée en géniteur, parce qu'il faudra pas à tout moment recourir au milieu naturel. Vous risquez de les dépeupler aussi et perturber l'écosystème. Vous devez les produire vous-même après. De la phase de la maturité des larves à avoir les géniteurs, vous avez encore 1 mois et demi, ce qui vous fait 3 mois complets sur un cycle.
Donc après 3 mois, vous avez déjà combien de larves? Vous pouvez avoir une production de combien de larves?
Alors ça, c'est une très bonne question, parce que après 3 mois, vous avez les cycles complets, donc vous partez d'un géniteur à un autre. Mais si vous avez besoin d'avoir les larves, au bout d'un mois et demi, de 5 semaines, vous avez déjà vos larves. Alors, quelle quantité de production, tout dépend de combien de géniteurs vous avez accouplés au départ. La quantité de géniteurs que vous avez accouplés vous donne une projection sur la production que vous attendez.
La femelle peut pondre combien des œufs, des charançons?
En milieu contrôlé, avec mon expérience, elle varie entre 50 et même 200 œufs. Ça dépend si les conditions sont très bonnes ou vous êtes très bien rapproché de son milieu naturel en termes de microclimat. Vous avez une très bonne production. Mais après, lorsque vous avez 200 œufs, cela ne veut pas dire nécessairement que vous aurez 200 larves. Mmh. Il y a aussi le taux d'éclosion des œufs. En milieu contrôlé, vous pouvez, le taux de perte peut aller même jusqu'à 50% si vous ne maîtrisez pas très bien. Mmh. Vous pouvez partir de 200 œufs à 100 larves. Et après éclosion des larves, il y a aussi le taux d'adaptation. Combien de larves vont s'adapter pour croître en milieu contrôlé? Il y a des celles qui sont faibles, qui s'arrêtent, qui meurent. Et il y a des celles ces larves qui continuent. Et tout ça, il faut beaucoup de gymnastique.
Tout dépend des conditions, tout ça contrôle.
Exactement, c'est le climat et l'humidité qui vous fixent toutes les bases.
Bien, on va accueillir les auditeurs qui sont intéressés par l'élevage des charançons appelés Mposé. Thomas, vous êtes à Bounia, bonjour.
Bonjour monsieur, je vous dis bonjour aux invités avec vous au studio ainsi qu'aux auditeurs de la radio Capi.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à l'élevage des charançons?
Oui, je suis quand même intéressé par ça. J'aimerais aussi moi se lasser dans ça. Je ne sais pas, c'est la première question aux invités. Il me faut quoi pour que je puisse me lasser dans l'élevage des charançons? Je ne sais pas si à terme des matériels ou des équipements, il me faut quoi pour... parce que ça m'intéresse, parce qu'avec le bidjo, j'ai vu ça, c'est vraiment intéressant. Ça goûte également, ça peut générer beaucoup de revenus. J'aimerais aussi me lasser dans ça. Je ne sais pas si les invités peuvent me donner quels sont les conseils ou les recommandations pour ça. Mais la deuxième question, c'est quelles sont les techniques et méthodes recommandées pour suivre la gestion, mais aussi la croissance de ces charançons-là.
Bien, merci. Merci pour cette question. Il y a quelques soucis au niveau de la liaison téléphonique. On va donner la parole à Malonga de Kinshasa. Malonga, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à notre invité, à tous ceux qui nous suivent à ce moment ici.
Bien, j'imagine que vous aimez bien les possés, manger les possés, les charançons. Peut-être que vous êtes aussi éleveur. Bien, alors qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus?
Bon, avec les excès de graisse de ces possés-là, c'est ce que je vais m'intéresser aussi à demander à l'invité, puisqu'ils sont le chenille qui contient beaucoup de graisse. Et si c'est bien préparé, puisqu'il y a ceux qui les mangent aussi cru comme ça, sans pouvoir les préparer.
Oui.
Puisque là, au village chez nous, on n'élève pas ça. On reçoit ça, on récupère ça là où.
En milieu naturel.
De vin de palme. Là, on les faisait de vin de palme. On fait leurs travaux là-bas. Bon, si ces palmiers coupés, c'est pourri, alors ça se développe vraiment beaucoup. Bon, comme l'intéressé vient de dire là-bas, comment dénicher que ça c'est femelle et ça c'est mâle? Puisque ce sont des chenilles, hein, ce sont des insectes, ça en tout cas pour contacter cela c'est bien. Puisque moi aussi je peux récupérer à travers là à la forêt de prendre la femelle et mâle et venir les lever ici. Comment je saurais que c'est mâle et femelle? En plus, ce sont des insectes qui subissent la métamorphose. Ils se transforment d'un poste à chenille volant. Alors, là au village, le vieillard nous ont dit que ce sont les volants qui viennent naître les œufs à un palmier pourri et puis commencent à se multiplier. Est-ce que ce sont les poissons eux-mêmes qui se multiplient, qui s'accouplent et puis donnent les œufs? Ou bien les chenilles volants qui viennent s'accoupler avec les poissons? Bon, qu'est-ce qui se fait là-bas? Troisièmement, moi je suis de Bandundouville. Je n'ai, en tout cas, s'il vous plaît, c'est ici qui chasse où je vois les poissons à chaque période, à chaque fois où je veux manger ou bien je le vois. Mais à l'intérieur d'autres villes, c'est très difficile. Bon, comment on peut élever ça localement chez moi, dans ma parcelle? Est-ce qu'il y a une technique, comme mon confrère vient de dire là-bas, pour ne pas se répéter, il y a une technique que le peut nous initier?
Oui, pour élever l'impôt, c'est chez vous, à la maison, à Bandundouville.
Ok, ça va. C'est ça, en tout cas, mon frère, je te dis, félicitations, bonne journée.
Merci, Malunga. Ismaël Mumpoi, de Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Kachama, bonjour à l'invité.
Est-ce que vous avez aussi l'impôt, c'est là-bas, Lubumbashi, les chansons?
Non, les chansons ne sont plus ici. Ah, moi, ça vient du côté Kasaï, précisément, il est beau. Même au Kassai central et au niveau de Dibaye Consol, là où il y a un peu de palmier qu'on fait le vin là.
Oui.
C'est là où nous avons vu, et quand même ça, j'ai fait presque 4 ans aussi à Ilebo de 1992-93. Là-bas, c'était une quantité qu'on ne peut pas même s'imaginer. Là, ce sont de paniers d'imposés. Mais ici, de ce côté-ci, il n'y a pas de palmiers, il n'y a pas, à moins quand j'étais du côté Mpoué, tout partout là, mais je vois ce dont je vais dire, ce sont des chenilles naturelles. Mais présentement, par la technique dont l'invité est en train de dire, ça fait faire peur aux gens de manger cela, par la culture. Vous voyez, quand vous avez un WC ou la fosse septique, ce qui se développe là, comment on appelle ça? Ça a une presque même forme avec les imposés. Maintenant, si par culture, les gens peuvent penser que si on prend cela, on le met dans des déchets, ça peut se développer facilement. Mais si vous prenez les palmiers dont nous avons dit, dont on fait les lumaïmaï, qu'on appelle les dibondo. Alors, je me rappelle aussi des collins dibondo de Canan, parce que c'est un bon arbre. Je pense les mâles là, volants qui viennent, nous avons vu en biologie que cet insecte qu'on peut appeler les bombex, les bains, c'est un papillon qui se transforme en chenille en faisant deux œufs. Mais pour l'imposer, c'est contraire parce que les volants là doivent mourir d'abord au niveau de palmiers Bon, qu'il soit les palmiers déjà abandonnés, on a déjà fait le vin, on a laissé, et puis celui-là vient, puis après on coupe. Il y a ce qu'on coupe, comme les palmiers, pour, les palmiers simples ici, on coupe, après avoir extrait les vins, c'est par là que les mpos commencent à se développer petit à petit. Ça commence les petits jusqu'à ce que ça va grandir. Il y a aussi des arbres palmiers qui déjà morts. Là où nous avons les mpos non graissés. Et le graissé, les tout blancs, là, d'autres là ont de matière fécale. Les matières qui est dedans, là, c'est mélangé avec du sable et consort, là. J'avais voulu à ce que l'invité aussi nous précise. Mais par qu'il tire de ce qu'ils sont en train de faire maintenant, est-ce que ça ne peut pas donner une mauvaise impression? Pas l'habitude. Les gens ont peur même de manger cela, qu'ils comparent ceux qui sont à OEC dans des fosses septiques.
Que on, ça peut on les compare aux asticots.
Qu'est-ce qu'ils font concrètement? Ben après, quel est l'apport nutritif de cet aliment? Parce qu'il a fallu spécifier. Et comment ils peuvent aussi étendre cette culture? Tout ce qu'ils veulent faire, comme ici à Lubumbashi, nous n'avons pas de palmiers et consorts là. Et les composants, on peut dire comment, les composts, ils font dans des composts, ou c'est comment ça? Parce que ce sont des choses qui viennent, quand vous arrivez là, ça sent mal. Quand, là où se trouve l'impôt, là, ça sent tellement mal.
Ok.
Mais l'impôt, c'est là. Si vous mangez, vous voyez l'impôt, c'est parce qu'on peut les manger non préparés, préparés, grillés, mais de toutes sortes, on peut manger l'impôt.
Oui.
Je pense que c'est une bonne culture qui peut même être, aller au-delà même
merci.
Des frontières de la
Ismaël,
RDC,
en passant,
même si
Ismaël, en passant, comment on appelle l'imposé en swahili?
Mapose.
Ah, en swahili, on les appelle les makose.
Oui, oui. Mais plus, moi, je parle beaucoup de langues locales. C'est tout là, il se peut que je parle en bemba. Parce que même les mapose, même en swahili, même en bemba, c'est mapose. Mais c'est rare ici. On les voit, ce sont le petit, même les petits, comme notre saison ici. Il y a ceux qui se développent dans des herbes, mais ici il n'y a pas, parce que nous n'avons pas suffisamment de pluie. Mais ça prend aussi, ça se développe à travers la pluie. Car pendant la saison pluvieuse, il y a beaucoup de production, je connais quand même. Mais ici nous n'avons pas de palmiers. Mais à moins si on nous aide par rapport à notre climat, qu'est-ce que nous pouvons faire ici, pourvu que nous ne puissions pas, parce que ici, vous pouvez dépenser 50 000 ou 40 ou 30 000 pour ceux qui viennent de Lebo là. Un petit rien là, il n'y en a pas. À moins c'est une bonne chose. C'est à féliciter, merci beaucoup.
Bien.
À moins s'il y a une autre préoccupation.
D'accord, merci. On va accueillir Adelar Ngengele de Kisangani. Adelar, bonjour. Adelar depuis Kisangani, bonjour. Bien, il n'est plus en ligne, il va certainement nous rappeler. Bien, il y a eu beaucoup de préoccupations, beaucoup de questions. On commence avec vous, monsieur Jonathan.
Je veux dire simplement que j'aime la science parce que la science nous permet de faire des grandes choses. On nous prend pour des petits dieux, mais c'est pas ça.
Oui.
Nous ne sommes pas du tout des dieux. Avec la science, vous pouvez étudier un insecte, son comportement, savoir ce qu'il veut, savoir ce dont il a besoin pour grandir. J'ai entendu un auditeur dire, par tourner un peu en rond en disant que c'est le volant qui vient s'accoupler avec l'asticot entre guillemets. Donc, ce qui se passe, c'est ces volants-là qu'on appelle, c'est dans l'ordre des coléoptères, on les appelle les Rhynchophorus phoenicis. Eux, mâles et femelles, pour les distinguer, il faut un visuel. Je sais pas si on peut se voir avec le monsieur pour lui montrer comment il faut les distinguer. Mâles et femelles qui sont mis ensemble. Ensemble, ils n'ont pas besoin de mourir pour produire l'impôt. Ils s'accouplent, ils peuvent continuer d'ailleurs à vivre, continuer à aller encore envahir d'autres palmiers, mais en ayant laissé des œufs dans un palmier. Mmh. Ensuite, ces palmiers là-bas, les larves vont se développer à l'intérieur et en même temps détruire les palmiers. Si vous regardez sous d'autres cieux, au nord par exemple, ils considèrent vraiment ces insectes comme des envahisseurs de cultures de palmiers. Ils les éradiquent d'ailleurs, ils créent des techniques pour pouvoir tuer ces insectes dans les palmiers.
Oui.
Voilà, ils se mettent ensemble et ils donnent des larves. d'abord des œufs qui deviennent des petites larves. La différence avec les asticots, c'est très facile. Les asticots ne deviennent pas grands, vraiment.
Oui,
grand
l'impôt, comme ça. Ça prend voilà. Du volume. Hein.
C'est une larve.
L'impôt, c'est tout court.
L'impôt, c'est tout court. Oui. Va, elle peut aller jusqu'à 14 grammes. Personnellement, on a expérimenté. Il peut être consommable déjà à partir de 6 grammes, jusque même à 14 grammes, c'est grand. Mais les asticots qu'on voit dans les WC, je suis désolé.
Non, c'est autre chose.
C'est pas la même chose. Voilà. Il faut faire comprendre ça.
Il dit que là où on élève l'impôt, ça sent mauvais.
Oui,
c'est vrai.
Oui, justement, parce que ces aliments sont fermentés. Et ça donne de mauvaises odeurs, bien évidemment. Et il faut se protéger contre ces mauvaises odeurs. Mmh. Et ensuite.
Et qu'est-ce que vous faites? Vous portez des.
Oui, on a des masques, on a des gants. En tout cas, il faut garder le. Il faut être propre, surtout éviter de se salir. Sinon, c'est peut-être l'occasion d'avoir plusieurs maladies. On se protège pour bien élever ces insectes.
Bien, Madame Françoise.
Si je peux rebondir dans le même ordre d'idée,
oui.
Déjà, j'aimerais dire à l'auditeur sur sa préoccupation des équipements, celui qui a demandé comment vous les faites, quels sont
les équipements qu'il faut avoir pour élever les
charançons. Et en termes d'équipements et de matériel, ça dépend de vos moyens. Nous, c'est presque un élevage semi-moderne. On a un bâtiment, on a des outils de contrôle, des moniteurs de température qu'on peut contrôler à ma distance si on n'est pas là. C'est en termes de moyens, mais c'est un élevage que vous pouvez faire avec les moyens les plus simples possibles. Juste des bocaux en plastique, vous pouvez faire votre hangar de préférence en bois avec un peu de treillis, pas métallique parce que, voilà, ils ont leurs limites de température. Dans les conditions naturelles déjà, la température la plus acceptable, c'est 25 degrés. Votre humidité doit tourner autour de... C'est l'humidité atmosphérique, bien sûr. Ça doit tourner autour de 70%. Et vous devez rester dans cette tranche-là. Si vous mettez des tôles, quand il y a des fortes chaleurs, c'est des pics de température que vous ne saurez pas gérer. Et une phase seulement d'impôt, c'est peut résister et une autre ne peut pas supporter cette chaleur-là. Pour ce qui est de comment...
Donc, il faut éviter les fortes chaleurs.
Exactement.
Quelle est la température ambiante qu'il faut maintenir?
25 degrés. C'est bon pour tous les âges ou tous les stades d'imposé.
D'accord.
Alors, quand nous disons posé, généralement, on fait allusion à ce que nous consommons. Les larves que nous consommons. Et ce que nous consommons, comme je l'ai dit, c'est juste le stade larvaire. Mais l'adulte, il est dur. C'est un scarabée. Il est dur, un peu, je ne ferai pas trop allusion au cafard parce que le cafard est tendre et ils ont une coque dure, ils ont ce qu'on appelle des élytres. C'est un peu, comment le reconnaître, les mâles et les femelles, ils ont des antennes de devant qu'on appelle rostre. Et à partir de ces antennes-là, vous verrez que chez la femelle, c'est plus long. Est recourbé vers l'avant et lisse. Chez le mâle, c'est robuste, un peu plus court et il y a un peu une sorte de poil tout au-dessus. Mais après, ça dépend aussi s'il a développé tous ces caractères-là. Il faut alors être du domaine pour savoir que quand bien même je n'ai pas tous ces caractères, ça doit être un mâle. Il y a d'autres caractéristiques secondaires qu'il faut savoir. Et quand, comme mon collaborateur l'a dit, ce n'est pas quand ils viennent, ils meurent sur un palmier qu'après l'impôt se développe. Non, non. Ils viennent, ils s'accouplent, ils laissent les œufs. Comme les mouches. Quand une mouche vient sur votre plat, vous voyez une matière noire qu'elle laisse. Il peut y avoir des œufs et elle s'en va. Sa vie continue et la durée de vie des adultes là est au-delà de 6 mois. Un milieu naturel, un milieu contrôlé, c'est déjà des captures. Il y a beaucoup de gymnastique à faire pour les garder.
Mmh.
Et ils continuent leur vie, ils continuent à pondre. C'est vrai que la femelle a une durée beaucoup plus écourtée que les mâles et elle est moins résistante. Il se peut qu'elle puisse mourir. Peut-être que là, que vous la voyez là, c'était son dernier... c'était sa dernière phase de vie. Elle est venue, elle s'est accouplée, elle a pondu.
Et puis elle meurt après.
Oui. Cela ne veut pas nécessairement dire que c'est ça le système. C'est Et il a dit que voilà, au village, on leur disait que ce sont ces insectes volants qui venaient pour donner, en tout cas, si, le village nous enseigne beaucoup. Mmh. Exactement, ce sont ces insectes volants-là qui sont des géniteurs ou des parents des larves que nous consommons, qui viennent déposer, ils s'accouplent, la femelle pond ses œufs.
Qui viennent féconder la voilà. Femelle, tout ça. Mmh.
Exactement. Et
voilà, il y a quelqu'un qui a parlé aussi de l'excès des graisses, tout
exactement.
Ça. Est-ce que c'est vrai? Il y a beaucoup de graisses dans ces possés?
Oui, il y a beaucoup. Il y a des graisses que moi, je n'appellerais pas graisses. Ce sont des lipides. Ce sont des lipides et ce sont des acides gras insaturés. Ce n'est pas nuisible à la santé. Et la quantité de graisses, dépend exactement de quel type d'aliments vous les avez donnés. Même chez les palmiers, il y a une différence. Nous avons le palmier à huile et il y a aussi le palmier raffia. Si vos pots ont grandi dans le palmier à huile qui nous produit l'huile de palme, là, vous avez beaucoup de ce qu'il appelle graisse. Ce sont des lipides, c'est évident. Mais s'il a grandi dans le palmier raffia, celui qui nous donne la matière qu'on fabrique, tout ce qui est objet traditionnel, on appelle ça les kékélés. On fait avec les nasses et tout. Oui. S'il a grandi dans ce palmier-là, il y a moins de graisse. Et la coloration est autre. C'est ça qui justifie la coloration, la grosseur des larves. Ça dépend des conditions auxquelles vous les avez soumis. Ça n'a rien à voir avec le fait que nous élevons. Alors, c'est justement pour ça qu'il faut les élever. Parce que en condition d'élevage, on sait contrôler cette teneur-là. En graisse ou lipides, comme il l'a dit, parce que nous, on n'abat pas les palmiers, on n'utilise même pas les palmiers dans notre composition alimentaire. Un auditeur a dit, il était quelque part, il y en avait des paniers et des paniers. Ce qui signifie, il y a eu des palmiers et des palmiers qui ont été détruits.
Ah.
Plus vous en
donc
avez.
Pour les recueillir, il faut détruire les
il
palmiers.
Il faut détruire l'écosystème, il faut détruire l'environnement. Ce qui est très déplorable.
Oui.
Voilà pourquoi nous faisons des essais d'adaptation. Comment on est arrivé à mettre ces méthodes-là en place? Ça n'a rien à voir avec les asticots. Quelqu'un s'est inquiété, il a dit, ça va faire peur aux gens.
Ça ressemble aux asticots
oui.
qu'on retrouve dans les toilettes.
Exactement. En 2017, nous avons fait un sondage, une enquête d'acceptabilité de ces insectes-là produits dans les conditions d'élevage auprès des ménages. Et on avait exactement ces réactions-là. Non, vous les
produisez. Certains ont même peur de les toucher quand on les voit dans.
Oui, ils ont très peur.
Dans un récipient, les gens ne veulent pas.
Ils ont très peur. Et les gens donnaient ces réponses-là. Moi, je ne peux pas les consommer. Il y a ceux qui ne les consomment pas pour des raisons de culture. Et il y a ceux qui ne les consomment pas parce qu'ils s'imaginent qu'ils se reproduisent dans des faux sceptiques, comme un auditeur l'a dit. Mais ce n'est pas du tout ça. Il n'y a rien de faux sceptique dans ce que nous faisons. Il n'y a rien de
ça
chimique.
Ça provient des palmiers.
Ce que nous faisons, ça ne provient pas de palmiers.
Même
on
pas
les
des
multiplie
palmiers, vous
nous-mêmes.
Les... D'accord.
Et on a fait analyser le palmier lui-même, que ce soit le palmier à huile ou le raffia, pour voir de quoi il est constitué.
Mmh.
Et à partir de ces composantes-là, trouver dans la nature des déchets de végétaux ou de produits végétaux.
Pour créer le même, recréer le même environnement.
Exactement.
Voilà.
Qui ont les mêmes propriétés, les mêmes vertus que le palmier.
D'accord. Un instant, il y a deux auditeurs, Godé Kidiongo de Kikwit et Emmanuel Tsinga, vous êtes à Kinshasa. Godé, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à l'invité.
Bien, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport au possé?
En tout cas, l'émission vraiment me concerne. J'ai fermé à 12 kilomètres de la ville de Kikwit. Vraiment, les charlatans sont là. Dans notre province du Kwilu, il y en a des puisque nous avons beaucoup de palmiers. Ce que la madame dit là, c'est vrai. Mais si nous produisons cela, il y a une rapide pour que vous puissiez vite manger cela. Nous prenons une grande quantité de sel. Quand nous coupons le palmier, nous mettons au milieu du palmier les quantités de sel plongées dans l'eau au palmier. Maintenant, au lieu de faire 3 mois, ça fait des mois. Vous pouvez manger ça rapidement. Plus rapidement encore, les quantités du sel là qu'on jette par des poissons salés, on prend les quantités du sel, on coupe les palmes, on met au milieu du palme, après l'imposte puisse vraiment sortir avant 3 mois. Mais j'ai quelques préoccupations à poser à l'invité. L'invité nous dit que il coupe les palmiers. Est-ce que elle remplace d'autres palmiers?
Non, elle n'a pas dit ça. Elle n'a pas dit qu'elle coupe les palmiers. C'est plutôt, je pense que c'est plutôt vous qui vous continuez à couper les palmiers avec vos techniques là.
Nous nous remplaçons par les palmiers. Mais elle exploite aussi comme ça, comme nous. Deuxième préoccupation. L'invité nous a dit qu'elle héberge les enfants quelque part. Est-ce qu'elle a comparé avec les chenilles? Est-ce qu'elle a aussi comparé avec les fougères? Puisque ici, dans notre province, à Vanga, Mission Vanga, on héberge aussi les petits enfants comme ça, avec les fougères. Ça fait croître aussi les enfants qui étaient malades, qui étaient avec une mauvaise santé, et les fougères aussi, ça aide. Je vais le dire à madame l'invitée, est-ce qu'avec les fougères, elle peut aussi essayer de donner aux enfants-là, comme elle héberge. Troisième préoccupation, les œufs qui pondent les poussées, est-ce que comment on peut les transposer d'une autre palme? Vraiment, l'invité aura le temps de me répondre, c'est Godé Guillaume.
Merci Emmanuel Singa de Kinshasa, bonjour.
Oui, bonjour monsieur le journaliste, bonjour aux invités, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Quelle est votre préoccupation Emmanuel?
Voilà, d'abord je remercie les invités pour la théorie qu'ils sont en train de nous développer. En tout cas, ça semble être très, très intéressante. Si j'ai suivi les réactions de nombreux de nos auditeurs qui parlent de asticots, qui sont en train de craindre que les larves qu'on est en train de vendre venaient des asticots, c'est une théorie que nous, partout, nous quand on était en train de grandir, on nous disait ça. Comprenez que nous qui avons vécu la campagne, nous avons vécu le village, on nous apprenait comme ça que nous à Kinshasa, on vend des poussées qui viennent des installations hygiéniques, donc la transformation des asticots. Mais je voulais poser une question aux invités. Est-ce que les larves qui sont en train de produire peuvent avoir la même valeur nutritive que les larves naturelles? Parce que nous savons que les larves se développent, comme elle venait de dire là, dans des palmiers. Ça peut être des palmiers à huile, palmiers à raffia, soit des palmiers que nous appelons chez nous des palmiers aquatiques. Et même la différence qu'elle a donnée là, vous allez sentir la différence des larves qui viennent des palmiers à huile sont différentes des larves qui sortent de palmiers aquatiques ou palmiers à raffia. Alors, ma grande préoccupation est celle-là. Là, est-ce que les larves qui sont en train de produire, généralement appelées chez nous ici mpossé, peuvent avoir la même valeur nutritive que les larves naturelles? Parce que ça, ça semble être artificiel, c'est pas naturel ce qu'elles sont en train de produire. D'accord. Voilà un peu mon intervention, c'est ça.
Merci Emmanuel pour toutes ces préoccupations. Monsieur Jonathan.
Bon, c'est naturel, il faut pas dire que c'est artificiel. Parce que c'est seulement les mêmes géniteurs que l'on met ensemble qui vont produire des poussées. Faut juste dire, le bien d'ailleurs, j'insiste à dire, le bien dans la science, c'est ça, elle nous permet d'adapter ce qu'on peut trouver à l'extérieur, les faire en intérieur et créer toutes les conditions possibles pour que cela puisse s'accroître. Il a parlé de la différence entre les poussées que nous produisons et ce qu'on
et
voit
et ceux qui sont recueillis dans la nature.
Oui, il n'y a pas une très grande différence, mais sauf que si je prends l'exemple par exemple du palmier à huile, le palmier à huile a une certaine composition. Et nous, ayant étudié les palmiers et on a compris ce que possédait le palmier en termes de composition, on a adapté cela, mais on ajoute quelque chose encore de naturel qui fait que forcément, il y aura une différence peut-être en termes organoleptiques et ça dépend d'une personne à une autre.
Et il a distingué trois types de palmiers.
Exactement. Moi, j'ai pris juste
les palmiers aquatiques. Moi, c'est la première fois d'entendre parler de ça.
Personnellement aussi, ben, oui. Mais il peut avoir raison. Il a raison sûrement. Justement, on a fait, on voit que chez nous, par exemple, parce que récemment, on a fait une analyse en termes de, en biochimie sur la composition, en apport nutritif que peut avoir nos possés et ceux du marché. On n'a pas précisé d'où, mais on a acheté des possés au marché et on a comparé, on a trouvé que chez nous, c'était légèrement supérieur en protéines. Nos possés étaient plus riches légèrement en protéines par rapport à ceux du marché et en lipides aussi. Ça signifie déjà qu'il y a une différence, mais ça se fera pas vraiment ressentir à moins qu'il faut suivre chaque jour la version.
Donc la valeur nutritive reste la même. Ce que vous produisez et ce qui est dans la nature.
Je vais un peu faire des pubs là. Chez nous c'est un peu supérieur.
C'est un peu supérieur que ce qu'on retrouve sur le marché là.
Exactement.
Ouais. Et il y a Godé Kidiongo qui a parlé de, il parle de certaines techniques qu'ils utilisent. Les sels pour recueillir les charançons au lieu de 3 mois, ils peuvent les recueillir après 2 mois. Et il a parlé aussi des fougères. Est-ce que vous pouvez pas utiliser les fougères pour les petits, pour tout, etc. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire, Madame Françoise?
Alors, ce que je peux lui dire, c'est que d'abord, je n'ai pas dit que moi j'abats les palmiers pour produire mes possés. Moi, je suis une protectrice de l'environnement et je suis très contre l'idée justement de prendre l'eau salée et aller fermenter les palmiers pour faire les possés. Moi, j'ai fait tout sauf abattre un palmier.
Mais il a dit qu'ils abattent et puis ils plantent d'autres.
Ils abattent, ils plantent d'autres, mais en même temps, il faut combien de temps pour que le palmier puisse avoir le même âge? Quand vous abattez aujourd'hui, avec les variétés améliorées, c'est 3 ans pour que vous ayez un palmier mature. Et entre-temps, dans l'espace de 3 ans, quelles sont les conséquences de vos actes sur l'environnement? Il faut évaluer cela. Et nous, on utilise justement d'autres aliments à base des fibres. Il y a des ceux qui utilisent les déchets de canne. Vous pouvez utiliser, les déchets de... Même après extraction d'huile de palme, il y a des déchets. Le palmier donne beaucoup de déchets en dehors de l'arbre lui-même. Mmh. Vous avez d'autres sources de fibres que vous pouvez utiliser pour l'alimentation de vos larves. Alors, pourquoi moi je ne donne pas les fougères, je ne donne pas les chenilles aux enfants qui vivent dans des foyers ou dans des orphelinats? Les légumes ne sont pas un problème à Kinshasa, mais ce sont les protéines d'origine animale qui sont un problème. Alors, s'il faut leur offrir des protéines, imaginez si on doit aller sur la base de viande de bœuf, viande de porc, c'est encore plus coûteux pour les nourrir. Et c'est moins concentré en protéines que les insectes. Je pars sur base de ce que je peux facilement multiplier et qui est plus riche que je peux les offrir. Pourquoi pas le chenille? Ce sont des projets qui sont faisables, qui vont voir les jours dans quelques temps. Ce n'est pas que nous allons rester seulement sur l'imposé. Nous sommes une ferme qui met en place des techniques d'élevage des insectes comestibles. Il y en a beaucoup. Quelqu'un parlait d'imposé. Est-ce qu'on va les mettre dans le compost et puis ils seront tout noirs? Malheureusement, ceux qui sont tout noirs là à l'intérieur, ce sont même pas les imposés, ce sont les makokolo. Mmh. Les makokolo, ils ont des déchets tout noirs à l'intérieur et tout. C'est un autre type d'insecte. Pourquoi pas les développer? Pourquoi pas les chenilles? Pourquoi pas les makelele? Pourquoi? Quelqu'un a dit, nous, à Lubumbashi, on les a pas.
Il n'y a pas de palmiers ici.
Il
n'y
a pas
de
palmiers. Justement, ouais. Leur milieu naturel, c'est le palmier. Mais avec ma petite expérience avec les insectes, ils s'adaptent à ce que vous leur offrez. C'est vrai qu'il y a des pertes que vous devez encaisser par rapport à cette adaptation, mais après, ils répondent. Justement, il n'y a pas de palmiers. Et comme il l'a dit, il le voit quelquefois pendant la saison de pluie. Parce que les insectes pendant la saison sèche, c'est une période critique pour eux. Ils disparaissent.
Emmanuel est encore revenu parce qu'il a encore un témoignage, il veut compléter ce qu'il a dit tout à l'heure. Emmanuel de Kinshasa, vous êtes là? Emmanuel?
Le journaliste.
Oui, qu'est-ce que vous voulez ajouter?
Oui, je voulais donner une précision par rapport aux palmiers aquatiques dont je viens de parler ici.
Oui.
Les palmiers aquatiques, on les trouve dans le marécage, donc à côté, dans des rivières, des grandes rivières, mais le long des grandes rivières, dans des marécages. Et d'ailleurs, ce sont ces palmiers-là qui produisent beaucoup de larves, donc beaucoup d'imposés, que le palmier arafia, par exemple. Donc, si je voulais expliquer aux invités, les palmiers aquatiques nous donnent encore certains fruits-là qu'on transforme ça, par exemple, chez le peuple Pende, on transforme ça en alimentation qu'on appelle bankulu. Je ne sais pas si les invités connaissent ça. C'est de couleur jaune.
C'est le sagoutier
qui
donne du sagou.
Oui, ça goûte, c'est un peu amer comme ça.
Okay.
C'est ça qu'on appelle les palmiers aquatiques. Et ça donne d'ailleurs, ça produit beaucoup d'imposés que nos palmiers rafia comme palmiers à huile. Okay. Et on trouve ça généralement dans la province, par exemple, du Sankuru, précisément dans les territoires des Kolé. C'est là où vous allez trouver une grande quantité d'imposés. On vous sort des bassins et des bassins d'imposés vers les territoires des Kolé. Si les gens des Kolé sont là en train de me suivre, ils peuvent témoigner ça. Voire même du côté des Kessé.
Merci à Emmanuel Ntinga de Kinshasa pour toutes ces précisions. Madame Françoise.
Oui, exactement. J'étais en train de dire, l'idée c'est de réussir à mettre en place une ferme diversifiée en élevage d'insectes et les mettre à la disposition de tous en tout temps. Parce que même à Kinshasa, contrairement à ce que quelqu'un dit, quand je pars au marché de Kinshasa, je trouve l'imposé à tout moment. Je les trouve à tout moment. Ah, moi, quand j'ai commencé, j'avais besoin d'un poste, mais j'ai fait des tours de marché de Kinshasa et il y a des moments où je ne les trouvais pas. Et pendant la saison, c'est encore plus compliqué. C'est justement ce que nous
voulons. Il y a une saison particulière où les poste apparaissent?
Non seulement les poste, mais presque tous les insectes.
Presque tous les insectes.
Ils sont favorables. Ils raffolent la saison de pluie. C'est plus facile pour eux de se développer. Comme M. Emmanuel vient de le dire, il se développe beaucoup plus sur le palmier aquatique ou le sagou parce qu'il contient beaucoup en termes d'humidité. Même sur le palmier lui-même, le mpossé ne consomme pas tout. S'il commence à migrer vers la partie qui est sèche, c'est qu'il commence à aller vers la formation des géniteurs. Il se transforme en parent, il subit des métamorphoses.
Et qu'est-ce qu'il mange? Quelle est l'alimentation d'un mpossé? Elle est constituée de quoi?
En milieu contrôlé. En milieu contrôlé, on fait un mélange de déchets de végétaux. On peut prendre je prends un exemple plus simple. Si vous prenez les fibres des cannes et vous mélangez avec les sons des différents types de céréales, sons de maïs, sons de blé, sons de riz, tout ce qui est disponible à vous selon votre contrée. Et je vais directement répondre à la question d'un auditeur qui a dit, dites-nous comment on doit les faire là où nous sommes. Ah, comment vous pouvez le faire là où vous êtes? Là, je pense que vous pouvez nous contacter après parce que je dois connaître exactement dans votre milieu, vous avez quoi qui est disponible pour vous aider à évoluer. Je ne peux pas vous dire sur base de ce qui est disponible à Kinshasa parce que même ce que nous avons à Kinshasa, ça nous joue aussi de tour. Il y a des moments où ça disparaît. On doit pallier pour remédier à ce manque-là. On va vers autre chose. Voilà. Je dois savoir vous êtes dans quel milieu et vous apporter la solution par rapport à votre milieu. Ce n'est pas comme l'élevage de gros bétail ou des volailles où il y a des normes standards. Mais là, vraiment, ce sont des adaptations liées à là où vous êtes, à ce qu'il y a de disponible comme source d'aliments.
D'accord. Cette année, par exemple, depuis le début de l'année, combien de larves avez-vous produit
ou reproduit? On peut estimer à combien? Combien de larves? Je vous donnerai en termes de quantité, mais en termes de compter les pièces, mais
c'est énorme.
C'est énorme, je ne sais même plus. Alors, avec une moyenne de 300 kilos... le mois, comme nous sommes au mois de, notre production jusqu'au mois de juillet, si je dois l'évaluer, nous sommes à 1800 kilos, quoi. Une tonne 800. Voilà. Mais en termes de nombre, les larves, c'est beaucoup d'exercices.
C'est beaucoup.
Vous les avez de tous les âges, tout le poids, alors il n'y a pas
énormément. Il y en a d'autres qui meurent, d'autres qui survivent.
Exactement. Il y a des pertes, il y a ce qu'on écoule sur le marché, il y a ce qu'on donne aux personnes vulnérables.
Aux orphelins.
Voilà. Et il y a ce qu'on transforme en géniteurs. On subit encore des pertes à ce niveau-là. Combien de larves? Non, mais à peu près 2 tonnes déjà produites jusqu'ici. qui ne sont pas là, qui sont partis.
Déjà, voilà. Monsieur Jonathan, on peut dire que c'est la production, l'élevage des charançons est rentable?
Oui, plus ou moins, elle est rentable. Quand, si on va extrapoler par rapport à ce que nous, on peut obtenir, elle est rentable. Mais ça dépend aussi, il faut avoir un espace concret, un bon espace pour pouvoir élever. Si vous n'avez pas un bon espace, je pense que vous allez peut-être perdre. Parce que avec la technique, il faut accepter d'encaisser les pertes. Et ensuite progresser, c'est rentable. Mais je voulais rebondir sur la saisonnalité. Les gens vraiment se plaignent, ils n'ont pas à se plaindre, ça c'est normal qu'à une certaine période, même les arbres sont saisonniers.
Oui, tout évidemment.
Alors, mais d'où l'importance, j'insiste encore, de la science. La science est importante parce qu'elle nous permet de vaincre même la saisonnalité. Je crée le microclimat qui existait pendant la saison des pluies dans mon bâtiment. Et l'impôt se pense que voilà, nous sommes dans
voilà, c'est toujours la saison continue.
Et on continue à se reproduire comme c'est comme ça.
Madame a parlé de l'humidité, il faut l'humidité, et quoi d'autre?
La température
surtout.
Il faut veiller sur ça. Voilà.
Et l'alimentation. Bien, alors nous sommes déjà à la fin de cette émission. Madame Françoise, rapidement, en 30 secondes, un dernier mot.
C'est que les gens doivent savoir que le monde évolue et de plus en plus le changement climatique continuera et nous devons poser tant soit peu des actions qui puissent corriger cela. Il faut en même temps se tourner vers... parce qu'il y a deux problématiques, changement climatique et aussi la malnutrition ou la faim dans notre pays. Il faut pallier à tous les deux en restant en même temps sur des pratiques d'élevage durables et éco-responsables et aussi les rendre disponibles à toutes les souches de la population.
Bien, Madame Françoise Loukadi Matala, présidente de la ferme pour les orphelins, Farm for Orphans, merci d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur Jonathan Tshibangu Mutombo, biologiste et manager de la ferme, merci également d'avoir répondu à cette invitation. Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette émission de La Vie au Quotidien. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur la fréquence de la paix. À la prochaine.